VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour, bienvenue. Donald Trump et Kim Jong-un ont affiché leur entente pour tourner la page du passé ce mardi lors d'un sommet historique qui a abouti à la signature d'un document commun dans lequel le dirigeant nord-coréen s'engage pour une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Anne Alberson.
Interrogé sur la dénucléarisation, enjeu majeur du sommet de Singapour, après des décennies de tensions autour des ambitions atomiques de la Corée du Nord, le président américain a assuré que ce processus pourrait désormais commencer très rapidement. La rencontre, la première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen, a été marquée par les poignées de main appuyées entre les deux hommes. Messieurs Trump et Kim se sont entretenus pendant près de 5 heures, d'abord dans un tête-à-tête d'une quarantaine de minutes, suivi d'une réunion de travail, puis d'un déjeuner. Kim Jong-un a estimé avoir tourné la page du passé après avoir surmonté de nombreux obstacles pour arriver à cette rencontre qui est un bon prélude à la paix. Donald Trump a salué, lui, la relation très spéciale établie avec l'homme fort de Pyongyang qui règne sur son pays d'une main de fer, comme son père et son grand-père avant lui. La Chine, principal partenaire de la Corée du Nord, a aussitôt salué le début d'une nouvelle histoire, tout en appelant son voisin à une dénucléarisation totale.
Donald Trump a déclaré aujourd'hui, donc après son sommet avec Kim Jong-un, qu'il mettrait fin à terme aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, décrits comme très provocateurs à l'égard de la Corée du Nord. Le président américain a également assuré que le dirigeant nord-coréen s'était engagé, après la signature de leur document commun, à détruire un site de test de missiles. Les discussions ont été honnêtes, directes et productives et Kim Jong-un veut faire ce qui est juste, a dit le chef de l'exécutif américain lors d'une conférence de presse à Singapour, précisant avoir abordé la question des droits de l'homme. L'Aquarius, qui croise en Méditerranée chargé de migrants et dont la situation a causé une crispation diplomatique en Europe, compte poursuivre ses sauvetages au large de la Libye lorsque les 629 migrants à bord seront arrivés en Espagne, a affirmé aujourd'hui la directrice de l'ONG qui l'affrète. Elle a affirmé agir au nom du droit maritime international et du devoir d'assistance à personne en détresse. Sur le continent, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé que la journée de la démocratie, jusqu'ici célébrée le 29 mai de chaque année, sera désormais observée le 12 juin à partir de 2019. Cette initiative, selon le président Buhari, vise à reconnaître et honorer Moshood Abiola, vainqueur de l'élection présidentielle organisée le 12 juin 1993. Moshood Abiola était considéré comme le vainqueur de l'élection présidentielle du 12 juin 1993 au Nigeria. Toutefois, il avait été empêché de prendre fonction, les résultats de l'élection ayant été annulés par l'administration de l'ex-président Ibrahim Badamasi Babangida. Abiola est mort en prison sous le régime du dictateur Sani Abacha. Crise au Cameroun anglophone, Amnesty International dénonce des violations des droits de l'homme et parle de populations prises en deux feux. Selon l'ONG, au moins 44 membres des forces de sécurité ont été abattus par des séparatistes armés entre le mois de septembre et mai dans les régions anglophones. Par ailleurs, les forces de sécurité camerounaises ont commis des violations des droits humains, dont des homicides illégaux, des exécutions extrajudiciaires, des destructions de biens, des arrestations arbitraires et des actes de torture durant des opérations militaires, selon l'ONG. Les avocats de Jean-Pierre Bemba, acquittés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, plaident aujourd'hui devant la Cour pénale internationale pour sa libération immédiate. Idriss Fall.
La chambre d'appel de la CPI a prononcé l'acquittement de Jean-Pierre Bemba vendredi, mais n'avait pas ordonné sa libération. Elle a estimé que la responsabilité de M. Bemba dans les atrocités perpétrées par sa milice en République centrafricaine n'avait pas été prouvée. Peter Hines, avocat de l'ancien chef de guerre congolais, a déclaré que M. Bemba aurait dû être libéré immédiatement. L'audience de ce mardi, qualifiée d'urgente, a donc été ajoutée à l'ordre du jour de la Cour. Le problème aux yeux des juges était sa condamnation en mars 2017 à 1 an de prison pour subornation de témoins. Un nouveau jugement a été ordonné en appel. On saura donc dans la journée si Jean-Pierre Bemba après 10 ans de détention, va retrouver la liberté. Son acquittement intervient dans un contexte de tension croissante en RDC à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre.
Et le président congolais Joseph Kabila a créé par ordonnance présidentielle une cour de cassation et un conseil d'État. Parachevant donc une réforme judiciaire engagée depuis 5 ans selon la télévision d'État aujourd'hui. L'actuel président de la désormais ex-Cour suprême de justice, Jérôme Kitoko, est nommé premier président de la Cour de cassation. L'actuel procureur général de la République, Flori Kabange Numbi, est quant à lui désigné procureur général près cette Cour. Le dossier de ce journal nous conduit au Burkina Faso avec la conférence très attendue aujourd'hui sur la rémunération des agents publics. L'objectif, selon le Premier ministre Paul Kaba Tieba, est d'aboutir à une maîtrise de la masse salariale à travers une refondation de notre contrat social avec les travailleurs. Fin de citation. Bagassi Koura, joint à Ouagadougou, Eli Kabore, il est journaliste économique.
Depuis que le président Kabore est au pouvoir, le pays a enregistré plusieurs types de grèves sectorielles, des grèves qu'on ne voyait pas au Burkina. Et entre 2016 et 2017, il y a eu près de 68 jours de grève enregistrés. Et cela a beaucoup impacté sur la mobilisation des recettes. Donc, dans son message de nouvel an, le président a dit qu'il faut mettre fin au règlement des problèmes des travailleurs au cas par cas. C'est vraiment son terme qu'il a employé. Et désormais, il voudrait que la résolution des problèmes des travailleurs se fasse d'une manière globale et durable. Donc, ce qui a mené un peu la convocation de cette conférence, en début février, ils ont remis une étude diagnostique qu'ils ont eu à faire à tous les partis présents pour accepter participer à cette conférence, qui ont eu à faire des propositions. Donc la conférence, c'est de vraiment faire la synthèse des propositions et maintenant définir une solution durable pour toute la fonction publique au Burkina.
Est-ce qu'on va remettre en cause les acquis des travailleurs?
Quand on écoute un peu les experts, un acquis, c'est au niveau du salaire. Alors que les différentes propositions, puisque nous avons eu accès au niveau des documents, les différentes propositions tendent à revoir à la hausse le salaire de base de tous les fonctionnaires. Maintenant, la crainte au niveau de certains corps de métier comme les finances, la douane, les impôts, c'est qu'ils ont des avantages qui sont, qu'on peut appeler des motivations. On prélève un certain taux sur les recouvrements qui ont été faits pour payer des motivations au niveau des financiers. Et se trouve qu'aujourd'hui, le débat national, c'est que cette motivation dépasse de loin le salaire. Donc la tendance est de revoir à la hausse des salaires, mais tout en réduisant un peu ces avantages-là.
Alors, il y a certains syndicats qui disent qu'ils ne vont pas participer à la conférence. Quels sont leurs arguments?
Le principal argument que ces syndicats avancent est que la conférence devait se passer entre le gouvernement et les travailleurs. Cette conférence devait plutôt discuter de la répartition des richesses nationales. Mais quand vous lisez un peu les propositions que les uns et les autres ont eu à faire, il ne s'agit pas d'aller discuter seulement des questions de rémunération salariale, mais c'est vraiment les aspects abordés par cette partie des syndicats qui refusent d'y aller. C'est-à-dire comment gérer toutes les ressources naturelles, et les ressources minières, les ressources forestières, etc. etc. Donc, certains ont même proposé que l'on inclut dans le système de rémunération qui sera discuté les salaires et les avantages du président du FASO, du premier ministre, des membres de son gouvernement, le président des institutions, des ambassades, etc. etc.
Eli Kabore, journaliste au journal L'Économiste, à Ouagadougou. Les Nations Unies prévoient de réduire de moitié leur force de maintien de la paix conjointe avec l'Union africaine au Darfour, la MINUAD, a rapporté hier le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà accepté l'année dernière de réduire les effectifs de la MINUAD qui fut l'une des missions les plus importantes, et des plus coûteuses de toutes les opérations de maintien de la paix, alors que les États-Unis réclamaient des coupes budgétaires dans les opérations de paix. Le Darfour est déchiré depuis 2003 par un conflit opposant les forces soudanaises à des rebelles issus de minorités ethniques et s'estimant marginalisées par le pouvoir central. Et pour terminer, un double attentat suicide a visé aujourd'hui des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar qui mène une offensive contre des milices islamistes et djihadistes à Derna dans l'est de la Libye, faisant des victimes selon un porte-parole de ces forces. Les attaques ont été menées ce matin à l'aube dans la région de Chia, dans le sud de Derna. Des explosions y ont été entendues dans toute la ville. Le bilan de l'attaque n'était pas disponible dans l'immédiat. C'est point final à ce journal. Le prochain vous sera présenté dans 50 minutes par Henri Francisque, merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.